Aristote, Rhétorique, livre 2, chapitre 3. Ce que c'est que d'être calme, à l'égard de qui l'on est calme et pour quel motif. 1. Comme le fait d'être en colère est le contraire du fait d'être calme, et que la colère est le contraire du calme d'esprit, il faut traiter les points suivants. Quels sont les gens calmes? À l'égard de qui le sont-ils? Et pour quel motif? 2. Le calme sera donc un retour de l'âme à l'état normal et un apaisement de la colère. 3. Ainsi donc, si l'on s'irrite contre ceux qui méprisent et que ce mépris soit une chose volontaire, il est évident que, à l'égard de ceux qui ne font rien de cette sorte, ou qui agiraient dans ce sens involontairement, ou qui se donneraient cette apparence, on sera dans une disposition calme. 4. De même, à l'égard de ceux dont les intentions seraient le contraire de leurs actes, et pour ceux qui se comporteraient de la même façon envers eux-mêmes qu'envers nous. Car personne ne semble disposé à se déprécier. 5. À l'égard de ceux qui reconnaissent leur tort et qui s'en repentent, car, subissant comme une punition le chagrin que leur cause l'action commise, ils font tomber la colère. Cela se remarque dans le cas des châtiments infligés aux serviteurs. Nous punissons d'autant plus ceux qui refusent d'avouer leur tort et opposent des dénégations. Mais, contre ceux qui conviennent que l'on a raison de les punir, nous ne gardons pas de ressentiment. Cela tient à ce que c'est de l'impudence que de refuser de reconnaître un tort manifeste. Or, l'impudence est une sorte de mépris et de défi, car nous ne respectons pas ce qui nous inspire un profond mépris. 6. De même, à l'égard de ceux qui s'humilient devant nous et qui ne nous contredisent point, car ils font voir qu'ils se reconnaissent nos inférieurs. Or, les inférieurs craignent leurs supérieurs, et quiconque éprouve de la crainte ne songe pas à mépriser. La preuve qu'une attitude humble fait tomber la colère, c'est que les chiens ne mordent pas ceux qui sont assis. 7. À l'égard de ceux qui agissent sérieusement avec nous lorsque nous-mêmes sommes sérieux, car ils semblent dans ce cas nous prendre au sérieux et non pas nous mépriser. 8. À l'égard de ceux qui nous ont rendu de plus grands services, de ceux qui ont besoin de nous et qui ont recours à notre aide, car ils sont dans une condition inférieure à la nôtre. 9. À l'égard de ceux qui ne sont pas insolents, ni railleurs, ni sans déférence, soit envers qui que ce soit, ou envers les gens de bien, ou envers les personnes de la même condition que nous-mêmes. 10. D'une manière générale, il faut examiner, d'après les circonstances contraires à celles qui accompagnent la colère, les motifs que l'on a d'être calme. Observer quelles personnes on craint et l'on révère. En effet, tant qu'elles sont dans ce cas, on ne se fâche pas contre elles, vu qu'il est impossible d'avoir tout ensemble vis-à-vis d'un même individu et de la crainte et de la colère. 11. Contre ceux qui ont agi par colère, ou bien l'on n'a pas de colère soi-même, ou bien l'on en a moins, car on voit bien qu'ils n'ont pas agi par mépris, la colère excluant ce sentiment. Et en effet, le mépris n'est pas douloureux, tandis que la colère est accompagnée de douleur. 12. De même, vis-à-vis de ceux que l'on révère, quant à ceux qui se trouvent dans des conditions qui excluent la colère, il est évident qu'ils seront calmes, comme, par exemple, Si l'on est au jeu, en train de rire, en fête, dans un jour de bonheur, dans un moment du succès ou en pleine convalescence, et généralement quand on est exempt de chagrin, lorsqu'on goûte un plaisir inoffensif, que l'on conçoit un espoir honnête. Tels sont encore ceux qui ont laissé passer du temps et ne s'emportent pas tout de suite, car le temps fait tomber la colère. 13. Une chose qui fait cesser la colère, même plus grande, dont nous sommes animés contre telle personne, c'est la vengeance que nous avons pu exercer antérieurement sur une autre. De là cette réponse avisée de Philocrate à quelqu'un qui lui demandait pourquoi, devant le peuple transporté de colère contre lui, il n'essayait pas de se justifier. « Pas encore, dit-il. Mais quand le feras-tu ? Lorsque j'aurai vu porter une accusation contre quelque autre. » En effet, on devient calme à l'égard d'un tel quand on a épuisé sa colère contre un autre. Témoin, ce qui arriva à Ergophile. Bien que l'on fût plus indigné de sa conduite que de celle de Callisthène, on la quitta parce que, la veille, on avait condamné Callisthène à la peine de mort. 14. De même encore, si les gens qui nous ont fait tort ont subi une condamnation et qu'ils aient éprouvé plus de mal que ne leur en auraient causé les effets de notre colère, car l'on croit dans ce cas avoir obtenu justice. 15. De même, si l'on pense être coupable soi-même et mériter le traitement infligé, car la colère ne s'attaque pas à ce qui est juste. On ne croit plus dès lors subir un traitement contraire à ce qui convient. Or, c'est cette opinion qui, nous l'avons vu, excite la colère. Voilà pourquoi il faut réprimer au préalable par des paroles. On a moins d'indignation quand on a été réprimé ainsi, même dans la condition servile. 16. De même, si nous présumons que la personne maltraitée par nous ne se doutera pas de notre action ni de nos motifs, car la colère s'attaque toujours à tel individu pris en particulier. C'est une conséquence évidente de la définition donnée. C'est ce qui fait la justesse de ce vers du poète. Il faut dire que c'est Ulysse le preneur de ville. En effet, Polyphème ne serait pas considéré comme puni s'il ne pouvait se douter ni de l'auteur ni du motif de la vengeance exercée contre lui. L'on n'a donc pas de colère contre ceux qui ne peuvent reconnaître notre action. On n'en a plus contre les morts, puisqu'ils ont subi la dernière peine et ne peuvent plus éprouver de souffrance, ni reconnaître notre vengeance. Or, c'est là le but que poursuivent les gens en colère. Ainsi, c'est avec à propos que, au sujet d'Hector qui n'est plus, le poète, voulant mettre un terme à la colère d'Achille, place ces mots dans la bouche d'Apollon. Dans sa fureur, il outrage une terre insensible. 17. Il est donc évident que ceux qui veulent inspirer des sentiments modérés doivent discourir au moyen de ces lieux. On met l'auditoire dans ses différentes dispositions suivant les cas. On lui présente les gens contre lesquels il est irrité, ou comme redoutables, ou dignes d'être révérés, ou encore comme ayant mérité de lui, ou comme ayant des torts involontaires, ou enfin comme ayant été grandement affligés de ce qu'ils ont fait.